Séance du jeudi 12 octobre 2023, deuxième séance consacrée à la lecture de Schopenhauer. Alors, comme je l'ai dit le 19 septembre, lors de la première séance consacrée à Schopenhauer, il me paraît nécessaire d'avoir un aperçu général de la philosophie de Schopenhauer avant de lire les deux suppléments que nous avons mis au programme de Philopop pour la saison 2023-2024, et qui sont la métaphysique de l'amour et la métaphysique de la mort, que vous trouvez en 10-18. Bon, mais il m'a semblé donc nécessaire d'abord de faire une présentation générale de la philosophie de Schopenhauer. Et c'est une bonne chose, me semble-t-il aussi, de commencer par la lecture du chapitre 17 des suppléments au monde comme volonté et comme représentation, parce que ça va nous permettre de comprendre le problème que se pose Schopenhauer, et puis aussi de présenter sa démarche. Alors, ce chapitre, on l'avait un petit peu entamé la dernière fois, à la fin de la séance, il a pour titre « Du besoin métaphysique de l'humanité ». Hein, vous l'avez, hein, vous voyez bien le titre sur la première page. Du besoin métaphysique de l'humanité. Alors, j'ai photocopié un certain nombre de pages. J'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde, moi, je pense. Et si vous vous souvenez, mais même si vous n'étiez pas là, nous avions montré en quoi l'homme est, comme le dit Schopenhauer, un animal métaphysique. Un animal métaphysique. C'est ce qu'on avait, on avait lu le début du chapitre 17. Et je ne vais pas reprendre le chapitre 17. Je vais trouver dans, à la page 4, lignes 39 à 44. Je les ai numérotées, les lignes. Vous avez un passage, un extrait, qui explique très bien pourquoi l'homme est un animal spécial, un animal métaphysique. Je lis, à l'animal sans pensée, le monde et l'existence peuvent paraître des choses qui se comprennent d'elles-mêmes. Pour l'homme, au contraire, c'est là un problème que les plus incultes même et les plus bornés se représentent nettement à leurs heures de lucidité. Alors, vous avez réussi à entrer ?
Oui.
Ah bon, alors, entrez alors. Ça va ? Parce que j'ai fermé assez à la demi. Hein. Bon, je continue à mon propos.
Désolé.
Entrez. Je vous en prie. Donc, on vient de commencer, juste commencer, et on a présenté l'idée de l'animal métaphysique. Alors, comme on l'avait vu la dernière fois, si l'homme vivait d'une vie immortelle, sans douleur, eh bien, il n'aurait aucune raison de s'interroger. Si sa vie n'avait pas de limite, s'il ne souffrait jamais, il n'aurait aucune raison de se poser des questions. Et, comme l'a montré dès le début du chapitre, Schopenhauer, c'est bien la conscience de sa finitude et puis des souffrances qui sont endurées par l'existence, eh bien c'est tout cela qui l'éveille à la réflexion et à l'étonnement et qui engendre ce que Schopenhauer appelle le besoin métaphysique. Il y a un besoin métaphysique de l'homme. Quel qu'il soit. Et parler d'un besoin métaphysique, c'est finalement comme parler d'un besoin physique, sauf que c'est métaphysique. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Comparons. Alors que le besoin physique est en quête d'une nourriture qui puisse donner satisfaction, qui puisse rassasier l'animal que nous sommes, eh bien, le besoin métaphysique, quant à lui, cherche satisfaction en se mettant en quête d'une réponse qui donne sens à son existence. Vous voyez ? L'expression besoin métaphysique est calquée sur celle de besoin physique. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que l'on entend par métaphysique ? Eh bien, Schopenhauer définit le terme. On avait déjà dit, mais enfin, je vais reprendre. Je vais citer l'extrait qui se trouve, page 2, ligne 25 à 30. Ligne 25 à 30, colonne de gauche. J'ai souligné. Par métaphysique, j'entends tout ce qui a la prétention d'être une connaissance dépassant l'expérience, c'est-à-dire les phénomènes donnés, et qui tend à expliquer par quoi la nature est conditionnée dans un sens ou dans l'autre, ou pour parler vulgairement, à montrer ce qu'il y a derrière la nature et qui la rend possible. Un petit commentaire. Métaphysique, étymologie du mot, montre que c'est ce qui est au-delà de la physique, donc au-delà de la nature. Au-delà de la nature. C'est-à-dire au-delà des phénomènes que nous observons. Donc, si on a bien compris, la métaphysique se présente comme un mode de connaissance qui prétend s'élever au-delà des phénomènes donnés pour appréhender le fondement invisible, la cause ultime, mais qui n'est pas visible, qui est à l'origine de la nature et de toute existence. Vous voyez, au fond, on essaie de saisir ce qui est à la source de la nature, mais bien sûr que l'on ne peut pas observer. Ce qui est à l'origine des choses, si vous voulez. Et c'est en accédant à cette connaissance, si on y parvient, qu'on croit pouvoir donner sens à son existence. Vous voyez ? Donc, maintenant, quel est le problème ? Le problème, c'est de savoir si la prétention à une connaissance métaphysique est légitime. Ce qui se présente comme une métaphysique permet-il vraiment d'appréhender ce fondement ultime de la nature et de notre existence ? Ou pour le dire autrement, tout le problème est de savoir si le besoin métaphysique peut véritablement trouver satisfaction sans tomber, comme l'explique ici Schopenhauer, sans tomber dans des fables ridicules, c'est son expression, fables ridicules par lesquelles il trouve satisfaction à peu de frais, selon toujours les termes de Schopenhauer. Alors, j'explique ce point. Il apparaît en effet qu'une grande partie des métaphysiques existantes, à commencer par ces métaphysiques populaires que sont les religions, une grande partie des métaphysiques existantes offre des réponses souvent grotesques, au point qu'on peut les qualifier de fables ridicules. Et c'est au point qu'un esprit satirique, comme le dit Schopenhauer, pourrait conclure que ce besoin métaphysique est somme toute un besoin bien moins exigeant et bien plus facile à satisfaire que le besoin physique. Je cite Schopenhauer, si vous voulez. Regardez bien, page 1, ligne 89 à 99. On va lire ce passage. On l'avait déjà lu, mais on va le reprendre. Il est assez long. Page 1, je répète, colonne de droite, ligne 89. Les temples et les églises, les pagodes et les mosquées, dans tous les pays, à toutes les époques, dans leur magnificence et leur grandeur, témoignent de ce besoin métaphysique de l'homme qui, tout puissant et indélébile, vient aussitôt après le besoin physique. Sans doute, un satirique pourrait ajouter que ce besoin-là est bien modeste et qu'il se contente à peu de frais. La plupart du temps, il se laisse amuser par des fables ridicules et des contes de mauvais goût. Pour peu qu'on les ait inculqués de bonne heure à l'homme, ce lui sont des explications suffisantes de son existence et des soutiens pour sa moralité. Fin de citation. Alors, comment expliquer cet état de fait ? Que révèle ce recours à des fables ridicules qui contentent les hommes à peu de frais ? Eh bien, réponse de Schopenhauer, quelques lignes plus bas, lignes 110 à 111. Cela prouve, j'ai souligné le passage, cela prouve que le besoin métaphysique ne va pas de pair avec la capacité métaphysique. En d'autres termes, je commente, le besoin d'une réponse à l'interrogation métaphysique est aussi fort chez tous les hommes, il est présent chez tous les hommes, mais, en revanche, leur aptitude à la métaphysique s'avère très inégale. Leur capacité métaphysique s'avère très inégale. Aussi faudra-t-il distinguer, comme va le faire Schopenhauer, deux types de métaphysique qui ne s'adressent pas au même auditoire, parce que on a affaire à des auditoires qui ont des capacités différentes et qui, bien sûr, n'ont pas la même démarche. Alors, comme l'indique page 2 Schopenhauer, ligne 74 à 76, c'est très court, il y a deux sortes de métaphysique, et ces deux sortes de métaphysique sont les doctrines de la foi et les doctrines de raison. Alors, qu'est-ce qu'il entend par les doctrines de la foi ? Les religions. Qu'est-ce qu'il entend par les doctrines de raison ? Les philosophies. Vous voyez ? Donc, vous commencez à comprendre quelle va être la démarche de Schopenhauer dans ce chapitre. Avant de voir s'il est possible et comment il est possible d'accéder à une connaissance métaphysique qui éclaire l'énigme du monde et de l'existence, eh bien, il s'agira d'examiner les différents types de doctrines qui se présentent comme des métaphysiques et qui prétendent lui apporter une réponse. Vous voyez ? Et on va commencer par les religions. On va commencer par la religion dont on va voir quelles sont, selon la formule de Schopenhauer, des métaphysiques populaires. Alors, les capacités... Je vous ai déjà un petit peu prévenu la dernière fois qu'il y a chez Schopenhauer un discours aristocratique. On va revoir ça rapidement. Les capacités intellectuelles de la grande masse des hommes les orientent vers la religion, qui est beaucoup plus accessible que la philosophie. Je cite Schopenhauer, là vous trouvez un petit extrait significatif, page 3, ligne 17, j'ai souligné. Le besoin d'une métaphysique s'impose irrésistiblement à tout homme, et sur les points essentiels, les religions tiennent justement lieu de métaphysique à la grande masse qui est incapable de penser. Alors, oui, on a déjà eu l'occasion de remarquer que l'idée selon laquelle la philosophie serait l'affaire de tout homme est assez étrangère à Schopenhauer. Rare, souvenez-vous l'explication, on avait donné la dernière fois, rares sont les hommes capables de libérer leur intelligence du service de la volonté. Je reprends exprès les termes de Schopenhauer. Qu'est-ce que ça veut dire ? La volonté, je vous rappelle, pour Schopenhauer, ce n'est pas ce que nous, nous entendons par là. Pour nous, la volonté, c'est la faculté de décider, de choisir, faculté consciente. Hein. Non, la volonté pour Schopenhauer, il faudrait même plutôt dire le vouloir, ce serait moins, ça prêterait moins à équivoque. La volonté, c'est selon lui cette force aveugle qui s'exprime par des besoins, par des désirs, par des intérêts, ce qui nous pousse à désirer en fait, hein. Ce qui nous pousse à avoir des besoins et des intérêts, bon, ce qui vient de la nature en fait en nous, c'est ça le vouloir. Et évidemment la volonté vise ainsi satisfaction, elle vise ainsi la satisfaction d'un besoin physique, vous voyez ? C'est ça la volonté. Bon, vous avez compris en quel sens il dit volonté. Alors, je ne reviens pas sur ce point. Mais je note toutefois une remarque qui revient souvent sous la plume de Schopenhauer. Et cette remarque, certes, ne remet pas en cause sa vision aristocratique, mais tout de même, elle apporte une certaine nuance. Et je dirais qu'ici, il faut faire très attention à ce que dit Schopenhauer. Parce qu'en effet, à plusieurs reprises, il suggère que l'incapacité de penser des hommes est peut-être moins une affaire d'inné, hein, que d'acquis. Enfin, j'exagère un peu, je force un peu le propos. En tout cas, il souligne que l'incapacité de penser des hommes est maintenue et renforcée par une éducation qui consiste à leur inculquer une religion dès leur plus jeune âge. C'est ça qu'il dit, Schopenhauer. Il le dit d'ailleurs une première fois dans un texte que j'ai cité tout à l'heure. Hein, page 1, reprenez l'extrait, page 1, ligne 95-99. « La plupart du temps, hein, vous vous souvenez, on a lu ce passage, « la plupart du temps, il, c'est-à-dire l'homme, la plupart du temps, l'homme se laisse amuser par des fables ridicules et des contes de mauvais goût, pour peu qu'on les ait inculqués de bonne heure à l'homme, je souligne, celui sont des explications suffisantes de son existence et des soutiens pour sa moralité. » Et puis plus loin encore, page 2, ligne 66-68, voilà un passage aussi assez remarquable, je lis « Le privilège inestimable qu'elle, c'est-à-dire les religions, donc le privilège inestimable que les religions ont d'être inculquées à l'homme dès l'enfance leur assure la possession durable des intelligences. » C'est clair ? Alors, ici, je me permets une petite parenthèse. Certains, peut-être, se souviennent de l'œuvre de Sigmund Freud. Et Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, était un lecteur de Schopenhauer. Et très certainement, il se souvient des remarques de Schopenhauer que nous avons lues. Lorsqu'à la fin d'un livre assez célèbre, qui s'appelle « L'avenir d'une illusion », qu'il a fait paraître en 1927, à la fin de ce livre, Freud formule l'espoir de voir se développer au sein de la civilisation une éducation qui favorise l'autonomie de pensée des hommes et qui leur permette de regarder en face la réalité en se passant de toute illusion religieuse. C'est l'espoir qu'il formule à la fin du livre. Alors, il a encore cet espoir, parce qu'il va être très vite déçu et il reviendra sur ce qu'il disait dans le texte suivant. Mais, en tout cas, il y a, vous voyez, chez Freud, l'idée que, bah oui, si on veut émanciper les hommes, il faut éviter qu'ils soient pris en main par la religion dès leur plus tendre enfance. Pour Schopenhauer, parce que Freud a l'espoir, hein, d'une émancipation, pour Schopenhauer, cet espoir est vain. Et il affirme, il pense, et on va comprendre ce qu'il veut dire, que les peuples ne peuvent pas se passer de religion. L'absence de religion, ce serait quelque chose de mauvais. On va l'expliquer tout à l'heure. Oui, ce serait une mauvaise chose. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Mais, vous voyez, il y a tout de même une divergence. Ils font tous les deux le même constat, hein, mais ils n'en tirent pas les mêmes conclusions. Donc, ils ne partagent pas ici l'idéal d'émancipation exprimé par Freud, qui se pose, en fait, en digne héritier de la philosophie des Lumières. Hein. Bon. Mais, je ferme cette parenthèse. Pourquoi donc les religions sont-elles tenues par Schopenhauer pour des illusions, parfois même des fables ridicules? En quel sens lui paraissent-elles justement des fables ridicules et des contes de mauvais goût? Et est-ce que sa critique vise indistinctement toutes les religions? C'est ça la question qu'on va se poser. Alors, vous remarquerez que la critique de Schopenhauer vise avant tout ce qu'il appelle les religions théistes. C'est-à-dire, au fond, les religions pour lesquelles il y a un Dieu tout-puissant, infiniment bon, qui crée l'univers. La religion théiste, le christianisme, c'est le judaïsme, c'est l'islam. Et parmi les religions théistes, il y a, il la cite, la religion musulmane. Et c'est à elle qu'il adresse ses critiques les plus sévères. Alors, je cite ici Schopenhauer, hein, page 1, ligne 106-107. « Nous y trouvons, écrit-il, nous y trouvons la plus triste et la plus pauvre. » Non, je reprends. « Nous y trouvons la plus triste et la plus pauvre forme de théisme. » Parlant de la religion musulmane. « Nous y trouvons la plus triste et la plus pauvre forme de théisme. » Alors, Schopenhauer admet que sa connaissance du Coran est certainement limitée, car il n'a accès au texte qu'à travers des traductions qui n'en restituent peut-être pas entièrement le sens. Et Schopenhauer, il aime lire les textes directement, hein, sans traduction. Ben, il ne connaît pas l'arabe. Mais, quoi qu'il en soit, et Schopenhauer voit dans le Coran, comme il dit, un méchant livre destiné à transformer les croyants en guerriers, en leur inspirant, je cite, ligne 104-106, un singulier mépris de la mort et un enthousiasme capable d'affronter des guerres sanglantes et d'entreprendre de vastes conquêtes. Fin de citation. Donc, vous voyez, la critique, c'est sévère, de la religion musulmane. Mais, de manière globale, il critique les religions théistes. À l'opposé des religions théistes, auxquelles surtout il reproche une manière de voir optimiste. Vous comprendrez mieux tout à l'heure ce que ça veut dire. Je peux déjà un petit peu l'indiquer. Elles ont une vision optimiste au sens où elle refoule la question du mal, selon Schopenhauer. C'est la critique qu'il leur adresse. Mais on comprendra mieux plus tard. Bon, donc à l'opposé des religions théistes, il valorise les religions orientales, et particulièrement le bouddhisme. Hein, c'est-à-dire que, alors, ce sont des religions sans dieu. Tout le monde croit qu'une religion est forcément un dieu, non? Il y a des religions sans Dieu, et elles sont bien plus anciennes que les religions théistes, car, je cite ici Schopenhauer, page 1, ligne 113-115, je cite, « Elles sont ainsi beaucoup plus près des origines de l'espèce humaine et des commencements de la nature organique. » Comme elles sont plus anciennes, vous voyez, elles sont plus près des origines de l'espèce humaine et des commencements de la nature organique. Aussi, il en tire la conclusion que, du même coup, ces religions rendent les hommes beaucoup plus capables, je cite, de saisir immédiatement l'essence de la nature. Fin de citation. Or, c'est bien justement parce que ces religions ne recourt pas à une fable comme celle d'un créateur bon et tout-puissant, parce que pour c'est ça que ça veut dire, hein, finalement, indirectement, c'est bien parce qu'elle voyez, ne recourt pas à cette fable et qu'elle ne masque pas la réalité de la condition humaine, qui est une condition misérable. Eh bien, c'est bien pour cela que ces religions peuvent satisfaire le besoin métaphysique des hommes, je cite Schopenhauer, d'une façon plus digne. D'une façon plus digne, vous voyez. Et Schopenhauer place le bouddhisme au-dessus de toutes les religions, au-dessus de toutes les autres religions. Pourquoi ? Il s'en explique. Parce que c'est une religion qui contient, je cite, une grande part de vérité, et avec laquelle il reconnaît que sa philosophie partage une certaine communauté de pensée. Alors, regardez là ce que dit ici Schopenhauer, page 3, lignes 114 à 119. En tout cas, je me réjouis de constater un accord si profond entre ma doctrine et une religion qui, sur Terre, a la majorité pour elle, puisqu'elle compte plus d'adeptes qu'aucune autre. Cet accord m'est d'autant plus agréable que ma pensée philosophique a certainement été libre de toute influence bouddhiste. Alors, c'est une précision importante, parce qu'elle permet d'écarter l'idée que le bouddhisme aurait exercé une influence sur l'élaboration de sa pensée. Hein ? Soit dit en passant, c'est en 1814, pendant l'hiver 1814, qu'il fait la connaissance à Weimar, chez sa mère, qui tient un salon littéraire, où elle reçoit Goethe, etc. Eh bien, il fait connaissance de l'orientaliste Friedrich Mayer, bon, qui s'intéresse beaucoup aux religions, aux sagesses orientales, et c'est à partir de cette date, surtout, que va naître chez lui un vif intérêt pour les religions orientales qui ne se démentira pas. Quoi qu'il en soit, que les religions soient théistes ou qu'elles ne le soient pas, elles sont toutes des métaphysiques populaires. Et il va falloir expliquer ce terme, hein. Il faut maintenant expliquer, au fond, la nature de ces religions et comprendre, au fond, leur démarche. Alors, qu'est-ce qui caractérise de manière générale ces métaphysiques populaires ? En quoi sont-elles, par exemple, différentes des philosophies ? Et pourquoi sont-elles plus accessibles à la grande majorité des hommes ? Alors, comme l'explique Schopenhauer, les religions sont de nature, c'est l'expression qu'il emploie, elles sont de nature allégorique. C'est-à-dire, elles s'expriment à travers des allégories, à travers des images, des symboles. Hein. Elles ne s'adressent pas à la raison des hommes, elles s'adressent essentiellement à leur imagination. Vous voyez ? À la différence des philosophies qui élèvent la prétention d'être vraies et ont l'obligation de l'être en s'adressant à la pensée et à la conviction, eh bien, les religions, elles, au contraire, cherchent à frapper l'imagination par des mystères. Elles cherchent à frapper l'imagination par des mystères qui échappent, évidemment, à la compréhension. Alors ici, il faut lire très attentivement un passage, là, qui est très important, page 2, ligne 131 à 146. Vous voyez, un paragraphe qui commence par « à la différence ». Ok ?« À la différence entre les deux sortes de métaphysique que nous venons d'examiner, s'ajoute une autre encore. Un système du premier genre, c'est-à-dire une philosophie, élève la prétention d'être vrai, sensu stricto et proprio. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Elles élèvent la prétention d'être vraie au sens strict et en son sens original. Vous voyez ? C'est ça, hein ? En son sens strict, évidemment, stricto sensu, et Ici, proprio, senso proprio, dans son sens véritable, dans son sens original. Bon, je reprends. Donc, un système du premier genre, c'est-à-dire une philosophie, élève la prétention d'être vrai, sensu stricto et proprio, en tout ce qu'il dit, et par conséquent, il a l'obligation de l'être effectivement, car il s'adresse à la pensée et à la conviction. Une religion, au contraire, est destinée au grand nombre, qui, incapable de peser et de penser, ne pourrait jamais saisir les vérités les plus profondes et les plus difficiles, sensu proprio, c'est-à-dire sens véritable, hein, dans leur véritable sens. Aussi n'a-t-elle que l'obligation d'être vraie, sensu allegorico, c'est-à-dire sur le mode de l'allégorie, avec des images, si vous voulez. Je continue. La vérité ne saurait paraître dans sa nudité devant le peuple. Un symptôme de cette nature allégorique des religions, ce sont les mystères qu'on rencontre dans presque toutes. Je prends des exemples, hein, mystère de la Trinité, de l'incarnation, de la résurrection, etc. Et ici, Schopenhauer fait ce commentaire. J'entends certains dogmes qui, loin de pouvoir prétendre à être pris à la lettre pour des vérités, ne sauraient même être nettement saisis par la pensée. Donc des mystères qu'on n'arrive pas vraiment à saisir par la pensée, qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Donc, si on a bien compris, les religions ne saisissent pas les vérités les plus profondes de manière véritable, de manière immédiate, mais seulement de manière indirecte, de manière médiate, à travers des allégories, à travers des images, vous voyez ? Et cette représentation donc imaginaire de la vérité, évidemment, s'en éloigne toujours plus ou moins. Vous avez des allégories qui sont très éloignées de la vérité, d'autres qui sont plus proches. Et d'ailleurs, comme l'écrit Schopenhauer, là, je cite page 3, ligne 105-107, hein, ligne 105-107, il écrit « Sous le voile de l'allégorie, les religions contiennent une part plus ou moins grande de vérité. » Sous le voile de l'allégorie, elles contiennent une plus ou moins grande part de vérité. Alors, d'ailleurs, on a vu que pour lui, le bouddhisme contient une part plus grande de vérité que les autres religions, hein, notamment que les religions théistes. Alors, s'il est vrai que les religions n'expriment pas la vérité stricto et proprio sensu, leur contenu doctrinal est présenté à leurs adeptes comme un ensemble de vérités. Comme un ensemble de vérités auxquelles ils doivent adhérer. C'est d'accord, c'est la religion. Les religions, elles prétendent dire la vérité, enseigner la vérité. Alors, pour évidemment, Schopenhauer, ce n'est pas la vérité proprio sensu, c'est allegorico sensu. Hein ? Mais disons que pour les adeptes, effectivement, ce que la religion enseigne, c'est la vérité. Et ils n'y adhèrent pas de manière rationnelle. Ils n'y adhèrent pas parce qu'elles sont démontrées. Ils y adhèrent parce qu'elles se présentent comme des dogmes qui exigent la foi. La nature allégorique, vous voyez, des religions va jusqu'à disqualifier la raison. Leurs vérités sont souvent des mystères qui s'imposent à l'esprit, quand bien même ils sont incompréhensibles, quand bien même ils sont irrationnels. Et d'ailleurs, dans le texte, vous verrez, Schopenhauer cite les paroles d'un des pères de l'Église, Tertullien, l'un des pères de l'Église chrétienne, qui allait jusqu'à affirmer, je le dis en latin, je traduis après, « Credo quia absurdum »,« Je crois parce que c'est absurde ». Je crois parce que c'est absurde, Parce que la vérité n'est pas de l'ordre de la raison. Elle est au-delà de la raison. Elle n'est pas, vous voyez, les vérités de la foi sont d'un autre ordre. Bon. Donc, dès lors que l'essentiel n'est pas de comprendre, mais de s'incliner, eh bien, on mesure tout ce qui sépare ces deux espèces de métaphysique que sont les philosophies et les religions. Regardez bien, page 2, ligne 37 à 39, page 2. J'ai souligné. On va commencer ligne 35, ce sera plus simple. Aussi, chez les peuples civilisés, trouvons-nous, en gros, deux espèces de métaphysique qui se distinguent l'une de l'autre en ce que l'une porte en elle-même sa confirmation et que l'autre la cherche en dehors d'elle. Ce passage est très intéressant, très important. Donc, la philosophie cherche en elle-même sa confirmation par la pensée, par le raisonnement. Elle prétend atteindre la vérité quand elle est en accord avec elle-même, en quelque sorte. Mais ça se passe à l'intérieur de la pensée. Tandis que la religion cherche sa confirmation en dehors d'elle, en s'en remettant à l'autorité d'une révélation, ou en se fiant à des prodiges, à des miracles qui frappent l'imagination. Je lis ici page 2, ligne 55 à 57. Comme nous l'avons dit, ils cherchent au dehors leur confirmation, la vérité leur est extérieurement révélée et se manifeste par des prodiges et des miracles. Alors, une grande partie, évidemment, de ce que dit Schopenhauer sur la religion concerne le christianisme, puisque c'est la religion dominante en Occident. Il s'adresse surtout à des lecteurs européens. Quelles conséquences en tirer ? La conséquence est simple. Alors que les philosophies doivent procéder par démonstration et doivent s'appuyer sur le libre examen, les religions en sont dispensées. Elles exigent seulement la soumission des fidèles à leurs dogmes. À défaut de preuves qui permettent de convaincre, elles usent parfois de la contrainte pour imposer leurs dogmes. Je cite Schopenhauer, ligne 57, ligne 57, c'est la suite de ce que je vous ai lu avant. Leurs arguments, c'est une expression ironique leurs arguments consistent surtout en menaces de peines éternelles ou temporelles dirigées contre les incrédules et même contre les simples sceptiques. Argument, tu iras en enfer, par exemple, c'est le plus élémentaire. Bon, donc, vous voyez, ce qui différencie les religions des philosophie. Et pour se conserver, les religions ont tout intérêt à s'en tenir à leur nature allégorique. Il est dangereux pour elles de mélanger les genres. Il est dangereux de chercher à valider leurs dogmes par des arguments rationnels. Elles courent ici le risque de voir leurs adeptes s'en écarter, s'en éloigner. Vous voyez ? Donc, si vous avez bien compris, si la vitalité des religions consiste dans leur nature allégorique et leur emprise sur les croyants, eh bien, bien sûr, on comprend qu'elles soient portées à l'intolérance, et on comprend également que les désaccords qui les opposent à d'autres religions, eh bien, ne fassent pas l'objet de discussions et d'échanges d'arguments. Elles sont, comme dit Schopenhauer, ces désaccords sont tranchés avec le feu et le glaive. Bon. À l'inverse, les combats que se livrent les doctrines philosophiques, qui concernent d'ailleurs très peu de monde et qui intéressent peu de monde, hein, finalement, eh bien, comme le dit Schopenhauer, ces combats se réduisent à la discussion et au pamphlet. On s'envoie des mots à la figure, mais ça ne va pas, hein, on va plus loin. Donc la nature allégorique des religions les incite donc à une forme de fermeture, puisque s'ouvrir à la discussion philosophique, ce serait courir le risque pour elles de s'affaiblir. Elles ne peuvent pas s'ouvrir à un examen rationnel qui interroge éventuellement le sens de leurs allégories sans renoncer à elles-mêmes, en fait. Alors, sur le plan théorique, c'est indéniable, la nature allégorique des religions a des inconvénients. C'est ce que nous sommes en train de montrer. Je cite Schopenhauer, page 3, ligne 34 à 41. Page 3, ligne 34 à 41. Mais voici la pierre d'achoppement. J'ai souligné. Mais voici la pierre d'achoppement. C'est que les religions ne peuvent jamais avouer leur nature allégorique. Elles sont obligées de se présenter comme vraies sensu proprio. Vous voyez ? Par là, elles empiètent sur le domaine de la métaphysique proprement dite et provoquent l'antagonisme de celle-ci, antagonisme qui s'est manifesté à toutes les époques où la pensée philosophique n'était pas asservie et mise sous tutelle. Parce que dans les autres époques, la philosophie se tenait à carreau. Hein. Bon. Alors ici, je ne vous explique pas tout ce qui vient après, mais Schopenhauer évoque la lutte acharnée que se sont livrées au sein du christianisme deux sortes d'écoles. Vous avez les esprits rationalistes qui voudraient éclairer les mystères de la religion par la raison. Vous voyez ? Et puis vous avez une autre école opposée qui est celle des partisans d'une lecture qui insiste sur le caractère surnaturel et mystérieux des vérités de la foi. Donc, vérité qui échappe, par définition, à une véritable compréhension rationnelle. Vous voyez, à l'intérieur même du christianisme, vous avez eu cette opposition. Hein. Bon, mais ne pouvant reconnaître la nature, leur nature allégorique, hein, comme elles ne peuvent pas reconnaître leur nature allégorique, eh bien, c'est ce qu'explique ici Schopenhauer, les religions prétendent énoncer la vérité sensu proprio. Hein ? Elles s'arrogent, au fond, le monopole de la vérité. Et par là, comme il l'explique, elles font obstacle au progrès de l'esprit humain dans la connaissance de la vérité. Bon. Et pour prendre quelques exemples, pas seulement d'ailleurs sur le plan de la métaphysique, mais aussi des sciences. Hein. Bon. Alors, est-ce que, selon Schopenhauer, les religions n'ont pour autant que des aspects négatifs ? Est-ce qu'il serait, par exemple, souhaitable qu'elles s'effacent, qu'elles disparaissent, comme osait l'envisager Freud ? Ce n'est bien sûr aucunement sa position. Elles ont des inconvénients sur le plan théorique, mais elles apportent d'incontestables bénéfices sur le plan pratique. Et là, il faut regarder ce que dit Schopenhauer, page 3, ligne 91-93. Ligne 91-93, il soulignait le passage. Le peuple a besoin d'une religion. Elle est pour lui un bienfait inestimable. Et il explique pourquoi. C'est que les religions sont un bienfait inestimable parce qu'elles transforment la réalité en mythe grâce justement à leur nature allégorique. Et en transformant la réalité en mythe, en un mythe accessible à la grande masse des hommes, elles les aident à vivre. Elles les aident à vivre. Et là, regardez, page 3, ligne 17 à 20. Hein, page 3, ligne 17 à 20. Je lis le passage. Alors, on avait déjà lu ce passage, mais on le reprend. Le besoin d'une métaphysique s'impose irrésistiblement à tout homme, et sur les points essentiels, les religions tiennent justement lieu de métaphysique à la grande masse qui est incapable de penser. Et il estime, Schopenhauer d'ailleurs, que sur ces points, les religions s'acquittent plutôt bien de leur tâche. Elles y arrivent bien. Et elles y arrivent bien parce qu'elles apportent un double bénéfice. Alors là, lisons le texte encore, la suite, hein, toujours après. Ligne 21-31, hein, donc après. Alors, car, alors d'abord, elle la remplace même fort bien, hein, c'est ce qu'il dit. Car, d'une part, elle dirige l'action en tenant toujours déployé, suivant la belle expression de Kant, le drapeau d'honnêteté et de la vertu. Pour le dire simplement, les religions apportent une morale aux hommes. Hein, voilà. Et puis, d'autre part, deuxième bénéfice, elles sont une consolation indispensable au milieu des épreuves douloureuses de la vie. Dans les moments de souffrance, elles jouent absolument le rôle d'une métaphysique objectivement vraie, car elles détachent de l'homme, car elles détachent l'homme, aussi bien que celle-ci pourrait le faire, elles détachent l'homme de lui-même et le transportent par-delà l'existence temporelle. C'est ici qu'éclate la valeur profonde des religions, je dirais plus, leur caractère indispensable. Alors, voilà, ça c'est vraiment un passage qui mérite un petit commentaire. Et ici, ce qui est frappant, c'est que l'analyse de Schopenhauer, ça va vous paraître un peu choquant, mais elle a quelques points communs avec l'analyse de Marx. Alors, pas dans la même perspective, ça, je tiens tout de suite à le préciser. Hein. Ils n'ont pas du tout la même perspective. Hein. Bon, mais c'est intéressant de voir que des auteurs aussi différents que Schopenhauer et Marx se rejoignent dans l'analyse qu'ils font ici de la religion. Alors, pour l'un comme pour l'autre, les religions inculquées depuis la plus tendre enfance, important, maintiennent les hommes dans une forme d'ignorance de leurs conditions et puis dans une dépendance. Pour Marx, alors évidemment, là, il y a la différence d'interprétation. Pour Marx, il s'agit là d'une situation d'aliénation qui appelle une émancipation. Pour Schopenhauer, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il ne peut pas en être autrement. Hein ? Il n'envisage pas ici un progrès historique. Bon. Il ne parle pas de déclasse, hein, Schopenhauer. Hein. Ce n'est pas du tout son truc. Hein. Donc pour Marx, comme pour Schopenhauer, en outre, les religions agissent comme une drogue. Comme une drogue puissante, comme un puissant sédatif. Marx parle d'opium du peuple. Drogue puissante qui permet aux hommes de fuir imaginairement leurs conditions misérables grâce à la promesse d'un bonheur au-delà de cette existence, au-delà de cette vie, en jouissant en quelque sorte d'un paradis artificiel. Alors, Schopenhauer, je reprends ces termes, dit « en transportant l'homme par-delà l'existence temporelle », et ici je cite le texte de Marx, petit extrait du texte de Marx, la religion est le soupir de la créature tourmentée, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit de situation dépourvue d'esprit, elle est l'opium du peuple. Très, très remarquablement écrit. Hein. Alors évidemment, les analyses de Marx et de Schopenhauer, certes, ont des points communs, mais j'insiste, leurs perspectives sont radicalement différentes, les conclusions qu'ils en tirent sont diamétralement opposé. Que la religion soit l'opium du peuple, Marx s'en désole. Hein ? Schopenhauer, au contraire, s'en félicite. Alors, après l'examen des religions, le moment est venu de celui des philosophies. Mais il va d'abord, il sera d'abord nécessaire d'écarter de cet examen un certain type de philosophie, la philosophie universitaire. Alors là, c'est très amusant. Très amusant. Page 2, en haut, hein, en haut de la page, voici ce que dit Schopenhauer. En général, la philosophie des universités n'est que de la comédie. Au fond, son véritable but est de donner aux étudiants des opinions selon le cœur du ministre qui distribue les chaires et pend sur Hegel, le philosophe, le grand philosophe de l'université de Berlin, hein, que Schopenhauer déteste particulièrement, il n'y a pas que lui. Alors, d'ailleurs, ce que dit auparavant, Schopenhauer, c'est que les philosophes d'université sont, au fond, pour la philosophie, ce que sont les prêtres pour les religions. Ce sont là, je cite, des gens qui tiennent. Non, ce sont là des gens qui tirent leur subsistance du besoin métaphysique des hommes. C'est un commerce, quoi. Hein. Bon. Bon, ils vivent là-dessus, quoi. Hein. C'est leur fond de commerce. Bon. Alors, évidemment, je vous vois venir. Il est tentant de voir les remarques de Schopenhauer comme l'expression d'un certain ressentiment à l'égard de l'université. Et c'est pas faux. Je peux pas vous démentir. Et vous savez bien qu'il a eu des déboires. Hein. Il a été ignoré tellement longtemps par l'université. Bon. Il a un ressentiment qu'on peut tout à fait comprendre. Toutefois, que Schopenhauer soit animé par le ressentiment, bon, c'est indéniable, mais ce serait tout de même passer à côté du texte que de réduire ce qu'il dit de la philosophie universitaire à sa vie psychologique, à ses déboires psychologiques. Il y a là tout de même un problème de fond. Hein, il faut lire un texte, il ne faut pas le réduire tout de même. On ne peut pas expliquer tout par la petite psychologie du bonhomme, quoi. Bon. Ce que reproche Schopenhauer aux philosophes d'université, c'est d'être avant tout des gens intéressés, qui cherchent des honoraires, des émoluments, et qui sont prêts pour cela à se mettre au service de l'État. Il accuse Hegel, le grand philosophe Hegel, finalement, de développer une philosophie de l'État qui soit favorable à l'État prussien. Critique un peu injuste, mais enfin, c'est ce qu'il pense. On ne peut pas mener, selon Schopenhauer, une véritable recherche de la vérité quand son intellect se trouve au service d'intérêts. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans son texte, Schopenhauer distingue deux sortes de philosophes, les faux, ceux qui vivent de la philosophie, ce que les anciens autrefois appelaient les sophistes, et puis ceux qui vivent pour elle, comme Schopenhauer, ceux qui vivent pour elle. Et il mettrait dans cette catégorie Spinoza. Spinoza qui avait refusé des postes à l'université pour garder farouchement son indépendance. Vous voyez ? Bon, ça, ce sont des philosophes dignes de ce nom. Bon, une fois que vous avez écarté la philosophie universitaire, venons-en donc vraiment maintenant à l'étude de ce qu'on appelle la philosophie. Alors, page 4, regardez ce que dit Schopenhauer. Page 4, en haut. À l'étude de la seconde catégorie de métaphysique, celle qui porte sa confirmation en elle-même et qu'on appelle philosophie. Voilà, il va consacrer maintenant son temps à l'étude de la seconde catégorie de métaphysique qu'on appelle la philosophie. Et ici, Schopenhauer rappelle aussitôt ce qui est à la source de la réflexion philosophique qu'il avait déjà dit. Mais regardez bien, ligne 4 à ligne 7, c'est très important de rappeler ce point. La philosophie naît de notre étonnement au sujet du monde et de notre propre existence, qui s'impose à notre intellect comme une énigme dont la solution ne cesse dès lors de préoccuper l'humanité. Ah, il faut reprendre ces termes-là. Le terme d'énigme est très important. Pourquoi le monde et l'existence sont-ils une énigme? Au sens où ils nous apparaissent incompréhensibles. Ils se découvrent à nous comme un donné, comme un fait, qui n'a aucune raison d'être. Ils se découvrent, je vais employer un terme philosophique, ils se découvrent comme un fait contingent. Contingent, ça veut dire quoi? Un fait qui aurait pu ne pas être, qui pourrait ne pas être, qui n'a aucune nécessité. Bon, ce qui est contingent, c'est ce qui n'a aucune nécessité. Ce qui pourrait très bien ne pas être. Vous voyez, c'est ça. Eh bien, je découvre quand, vous voyez, je me rapporte à mon existence, surtout quand je me rapporte à la perspective de ma propre mort, eh bien, je découvre l'existence comme quelque chose, finalement, qui n'a pas de sens, hein, qui n'a pas de justification. D'une certaine façon, la philosophie de Jean-Paul Sartre partira de cette idée aussi, également. Hein. Donc, il y a ici une contingence de l'existence. Et c'est cette expérience de la contingence qui est à la source de notre étonnement et qui se trouve au commencement de la réflexion philosophique. Et c'est pourquoi, et là c'est important, la philosophie de Spinoza, ce grand philosophe hollandais, d'origine juive portugaise, qui est né en 1632, qui est mort en 1677 et qui est l'auteur d'un grand livre qui s'appelle L'Éthique, eh bien, la philosophie de Spinoza, aussi admirable soit-elle, paraît fausse à Schopenhauer. Et pourquoi? Et ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas besoin de bien savoir qui est Spinoza, d'avoir des idées là-dessus pour comprendre ce que je vais vous dire. Pour Spinoza, tout ce qui existe, la totalité de ce qui existe, c'est-à-dire l'univers entier, le monde entier, existe nécessairement, selon une nécessité absolue. Il n'y a aucune contingence, si vous voulez. Hein ? Et cette conception conduit Spinoza à écarter l'idée d'un Dieu créateur. D'un Dieu créateur, qu'est-ce que c'est que créer ? C'est tirer l'univers du néant. Donc, si vous admettez l'idée de création, vous admettez l'idée que l'univers aurait pu ne pas exister. Il est suspendu à la volonté d'un Dieu. Donc l'idée de création, ici, est incompatible, en tout cas, avec celle d'une nécessité absolue. Vous voyez ? Et donc, je répète, si le monde existe parce que Dieu l'a voulu, eh bien, ça veut dire qu'il aurait pu ne pas être. Contre l'idée de création, justement, Spinoza affirme que Dieu n'est pas un être distinct du monde. Ce n'est pas un être distinct de la nature. Dieu et la nature, c'est la même chose. Dieu, c'est la totalité du réel. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un être qui veut, ce n'est pas une volonté. Alors ça, c'est assez étrange. Au départ, parce qu'on est habitué à penser évidemment Dieu dans les termes de la religion, Dieu, c'est la totalité du réel. C'est la nature. Dieu ou la nature, dit Spinoza. Et le réel, la totalité du réel, se déploie selon une nécessité absolue. Le monde existe aussi nécessairement que 2 et 2 font 4. C'est ce que dit Spinoza. C'est ce qu'il fait dire plutôt Schopenhauer. Alors, qu'est-ce que Schopenhauer oppose à Spinoza ? Ben, si le monde existait selon une nécessité absolue, il ne nous apparaîtrait pas comme une énigme. Nous ne serions pas susceptibles d'étonnement. Or, c'est bien au contraire, parce que nous l'appréhendons comme un fait contingent, que nous nous éveillons à la réflexion, vous voyez, c'est bien. Parce que je me pose la question, mais pourquoi ça existe? Pourquoi? Enfin, vous voyez, c'est l'étrangeté, d'une certaine façon, c'est l'étrangeté de l'existence, sa contingence, qui me conduit à réfléchir. Si le monde allait de soi parce qu'il est nécessaire, je n'aurais aucune raison de me poser des questions. Et donc, forcément, à la source de l'étonnement philosophique, il y a cette expérience de la contingence de l'existence et du monde. Je lis ligne, page 4, toujours. Prenez page 4, ligne 55 à 58. Ligne 55 à 58. En fait, j'ai souligné, hein, en fait, cette inquiétude qui tient sans cesse en éveil la métaphysique éternellement renouvelée vient de cette claire représentation que la non-existence du monde est aussi possible que son existence. La non-existence du monde est aussi possible que son existence. Et vous avez remarqué aussi cette formule, hein, cette inquiétude qui tient sans cesse en éveil la métaphysique. C'est-à-dire qu'on n'en aura jamais fini de la métaphysique. C'est un besoin inextinguible que le besoin métaphysique. Que nous le voulions ou non, et Dieu sait que Schopenhauer a une conception aristocratique de l'humanité, même le plus crétin, vous voyez ce qu'il dit, hein, ce qu'il disait tout à l'heure, même le plus sot, certaines heures de lucidité, se pose forcément la question mais de l'existence. Vous voyez ? Bon. Mais comme le montre Schopenhauer, l'étonnement n'est pas seulement l'inquiétude éprouvée devant la contingence du monde, l'étonnement naît également d'une méditation sur la souffrance qui règne dans le monde et sur son absence de raison. Alors ça, c'est quelque chose d'important, vous voyez, c'est là qu'on va saisir le problème central de la philosophie de Schopenhauer. Que le monde et l'existence soient déjà sujets d'inquiétude, étant donné l'expérience de leur contingence. C'est une chose. Mais qu'ils soient au surplus douloureux et misérables, voilà qui accentue leur absence de raison d'être. Et non seulement je découvre que l'existence est contingente, que le monde aurait pu très bien ne pas être, et en plus, s'ajoute à cette inquiétude, l'idée que ce monde est un monde où règne le mal, sous toutes ses formes. Et l'étonnement, dès lors, c'est surtout l'étonnement devant le spectacle du mal, dans tous ses aspects, et ici, bien sûr, je vais commenter. C'est ça qui va surtout être au cœur de la philosophie de Schopenhauer, le spectacle du mal, hein, dans un monde, finalement, qui est dépourvu de nécessité et un monde qui offre le spectacle d'un mal sans justification. Donc, vous allez voir ici que la philosophie naît, selon Schopenhauer, pour Schopenhauer, elle naît avec le problème du mal. Et là, je vais citer Schopenhauer assez longuement, il y a un passage un peu long, page 4, mais je reviendrai bien sûr, sur cette citation, parce qu'il faudra bien l'expliquer. Donc, vous avez le texte, page 4, ligne 72 à 79. L'étonnement philosophique est donc, au fond, une stupéfaction douloureuse. La philosophie débute comme l'ouverture de Don Juan par un accord en mineur. C'est l'opéra de Mozart. Je ne savais pas que ça commençait par un accord en mineur. Enfin, c'est un musicien, Schopenhauer. D'où il suit que la philosophie ne doit être ni spinoziste ni optimiste. On va revenir là-dessus. Cette nature particulière de l'étonnement qui nous pousse à philosopher dérive manifestement du spectacle de la douleur et du mal moral dans le monde. Et je vais plus loin. Vous allez plus loin, ligne 104 à 112, toujours page 4. Donc, comme nous l'avons dit, c'est le mal moral, c'est la souffrance et la mort qui confère à l'étonnement philosophique sa qualité et son intensité particulière. Le punctum pruriens. Ah qu'est-ce que ça veut dire? Le point de démangeaison. Le punctum pruriens. Hein? Donc le point de démangeaison de la métaphysique, le problème qui remplit l'humanité d'une inquiétude que ne saurait calmer ni le scepticisme ni le criticisme, consiste à se demander non seulement pourquoi le monde existe, mais aussi pourquoi il est plein de tant de misère. Fin de citation. Alors vous allez voir, on a mettre la crème c'est le scepticisme, ou la crème, le criticisme, enfin de doctrine, hein. Vous allez mettre la crème sur votre point de démangeaison, ça gratte tout le temps. Vous voyez, bon, c'est ça l'idée, hein, si vous voulez, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, au fond, le problème qui subsiste, qui persiste, quoi qu'on fasse, on ne peut pas l'effacer, bah, c'est ce problème du mal qui s'impose à nous et qui suscite ici l'étonnement philosophique. Alors, donc, l'étonnement, c'est avant tout l'étonnement devant la présence du mal, que celui-ci se donne sous la forme du malheur ou sous la forme de la méchanceté. Parce qu'il y a deux aspects. Hein ? Et d'ailleurs, Schopenhauer, vous l'avez remarqué, distingue les deux formes de mal. Il y a le mal subi, il y a la souffrance psychologique, physique, et puis il y a le mal commis, celui qu'on appelle le mal moral, qui consiste, au fond, dans l'injustice que nous infligeons aux autres hommes. Vous voyez, il y a ces deux aspects. Et comme il y a ces deux aspects, eh bien, l'étonnement devant la présence du mal peut se dédoubler en deux questions, en quelque sorte. Première question, d'où vient que nous souffrons ? D'où vient que nous souffrons ? Et deuxième question, d'où vient que nous sommes souvent injustes les uns envers les autres. Alors évidemment, on peut toujours répondre que tel homme souffre parce que son désir est frustré, ou encore que tel autre souffre parce que tel autre a commis envers lui une injustice. Bon, c'est vrai, vous pouvez toujours répondre ça. Mais le problème du mal est beaucoup plus radical. Il est beaucoup plus radical. Je le reformule. D'où vient que tel homme désire ardemment telle chose au point de ressentir son manque comme une vive souffrance? C'est-à-dire que ça va montrer Schopenhauer, ben je ne peux pas encore développer, c'est quelque chose que nous verrons après, c'est qu'au fond, le désir est l'expérience d'une souffrance, d'un manque, qui trouve une satisfaction passagère, mais ce manque, il est, nous tenaille en quelque sorte. Hein. Et puis, d'où vient que tel autre commet des injustices au mépris de l'intégrité physique et morale d'autrui? Comment expliquer cela? Enfin, si je résume, qu'est-ce qui, dans la nature profonde de l'homme, est à l'origine de la souffrance et de l'injustice? C'est ça le problème. Alors, peut-être pas aujourd'hui le résoudre. Prochaine fois. Une philosophie, en tout cas, n'est valable que si elle se confronte à la radicalité de la question du mal. C'est-à-dire que Schopenhauer fait de la confrontation au problème du mal le critère qui seul permet de distinguer une philosophie authentique. Une philosophie n'est vraiment authentique que si elle se confronte à la radicalité de cette question, autant dire qu'il n'y en a qu'une, celle de Schopenhauer. Et ainsi, comme il le précise, hein, je l'ai cité, la philosophie ne doit être ni spinoziste, ni optimiste. Alors évidemment, vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais je pense que ce n'est pas compliqué à comprendre. Alors, ici, Schopenhauer ne développe pas, hein, c'est rapidement dit, mais moi je vais expliquer. Expliquer de quoi il s'agit. Parce que je crois que c'est important de mesurer la différence entre Schopenhauer et les philosophies ici qui sont citées. Et au fond, qu'est-ce qu'il va reprocher à ces doctrines, le spinozisme et l'optimisme, c'est que loin de se confronter à la radicalité de la question du mal, elle s'ingénie au contraire à la refouler. Alors, voyons le spinozisme, c'est-à-dire la philosophie de Spinoza, mais Spinoza a fait des émules. Hein. Bon. Alors, non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa doctrine de la nécessité absolue rend inconcevable l'étonnement devant l'énigme du monde. Mais en outre, cette philosophie revient à nier l'existence réelle du mal. Et c'est ça que je dois expliquer. C'est ça que je voudrais vous expliquer. C'est-à-dire qu'on va montrer, je vais vous expliquer que pour Spinoza, le mal n'existe pas. Alors attention, vous seriez tenté de croire que Spinoza est un cinglé et que ne se rend pas compte que les hommes sont exposés à la souffrance et qu'ils sont tout à fait capables de violence et d'injustice. Ça, Spinoza ne le nie pas. Hein, c'est pas ça qui met en cause. Bien sûr. Oui.
Socrate aussi,
oui. Nul n'est méchant volontairement. Tout à fait.
Et il le prouve par un raisonnement
logique. Absolument, mais il y a du... On est dans cette filiation chez Spinoza. Alors, le mal n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'existe pas au sens où tout ce qui se produit, y compris les actions humaines, se produit nécessairement. Il ne peut pas en être autrement. Ce que je fais, je suis déterminé à le faire. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, il arrive seulement que ce qui m'arrive me soit nuisible, me fasse souffrir. Ah, c'est vrai, ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas pour autant parler, dans l'absolu, du mal souffert. On ne peut pas parler dans l'absolu du mal. On ne peut parler que de choses, que d'événements qui sont pour moi nuisibles, relativement à mon individu. C'est-à-dire que le mal n'existe pas, il n'y a que du mauvais, relativement aux hommes, sur qui ces choses ou ces événements produisent des effets. Bon, par exemple, S'ils absorbent un poison, un fruit empoisonné, oui, bah oui, ça me fera mal, je souffrirai, je tomberai malade. Mais il est possible que si ce fruit est ingéré par un autre animal, ça ne lui fasse rien. Vous voyez ? Voilà, tout simplement. En outre, ça c'est pour le mal souffert. Voyons maintenant ce qu'il en est du mal moral. En outre, donc, les hommes agissent nécessairement selon ce que leur passion les détermine à faire. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée d'un libre arbitre est une pure illusion. Est une pure illusion. C'est-à-dire que les hommes ne disposent pas d'un pouvoir absolu de choix et de décision. C'est ça le libre arbitre. Hein. Bon. Ainsi, pas plus qu'on ne peut parler d'un mal souffert dans l'absolu, pas plus on ne peut parler du mal moral. Dans l'absolu. Il n'y a pas de mal moral. Il y a, c'est ce que va expliquer Spinoza, mais là je ne peux pas trop développer, il y a seulement ce qu'il appelle des passions tristes, qui expriment un état d'impuissance des hommes, état d'impuissance au sens où ils n'agissent pas vraiment par eux-mêmes, ils sont sous la dépendance de causes extérieures. Alors ces passions tristes, c'est quoi? C'est la haine, c'est la jalousie. C'est, vous voyez, des passions qui... Et des passions, effectivement, qui les conduisent à s'infliger des violences, à se comporter violemment. Seulement, Spinoza vous dira qu'il est absolument vain et illusoire de culpabiliser les hommes, de leur reprocher des fautes. Puisqu'ils, ce qu'ils font, ils le font nécessairement selon des passions qui les y poussent. Alors le seul problème à se poser, j'empiète un peu, je développe un petit peu plus pour Spinoza, un de mes philosophes préférés, si vous voulez, mais le seul problème à se poser, c'est de savoir comment les hommes peuvent se libérer de l'impuissance, peuvent se libérer des passions tristes et épanouir leurs désirs, en quelque sorte, agir davantage selon leurs désirs. Et la réponse de Spinoza, c'est que si les hommes parviennent à se libérer des passions tristes, de leur dépendance, de leur impuissance, s'ils parviennent à agir vraiment en vertu de leurs propres désirs, eh bien, à ce moment-là, ils sont capables de viser ce qui leur est vraiment utile. Ils cessent d'avoir des passions tristes, et des hommes qui visent ce qui leur est vraiment utile sont utiles aux autres hommes. Il n'y a pas de conflit. Alors évidemment, c'est rapidement dit, hein, je ne peux pas faire autrement. Quant à l'optimisme, c'est la deuxième doctrine ici. Alors attention, l'optimisme, ce n'est pas ici une affaire de tempérament. Hein, ce n'est pas une affaire de tempérament, c'est une doctrine. C'est une doctrine philosophique dont le plus éminent représentant, c'est le philosophe Leibniz, celui dont se moque Voltaire dans Candide. Hein, en fait, il se moque plus exactement d'un disciple de Leibniz, qui s'appelle Wolf. Leibniz, philosophe du XVIIe siècle, contemporain quasiment de Spinoza. Contrairement au spinozisme, la doctrine optimiste ne nie pas l'existence du mal. Elle ne le nie pas. Elle lui accorde seulement une existence relative. Alors, essayons de comprendre de quelle manière. Aux yeux des hommes qui souffrent, qui sont accablés par l'injustice, le mal apparaît toujours comme quelque chose de scandaleux. Ils se demandent pourquoi. Pourquoi ce malheur? Pourquoi cette souffrance? Et dans le livre célèbre, dans un livre célèbre de la Bible, le livre de Job, qui est un homme juste et pieux, et qui est accablé par le malheur, il lui arrive que des catastrophes, il perd sa famille, il perd tout, et il est accablé par le malheur, et sans rien comprendre. Eh bien, Job finit par douter de la bonté du Créateur. Il ne comprend pas pourquoi tant de mal s'abat sur lui. Ainsi, la présence du mal dans le monde apparaît contredire l'idée d'un Dieu tout-puissant et infiniment bon. Mais, contradiction. Et c'est là que la philosophie optimiste entre en scène. La philosophie optimiste se fait, le philosophe optimiste se fait l'avocat de Dieu. Il écrit une théodicée. Enfin, il plaide pour Dieu, en quelque sorte. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, vous êtes tenté de dire que le mal est un scandale absolu et de douter de la bonté de Dieu. Mais moi, je vais vous démontrer que Dieu est bon. Et le philosophe optimiste simplifie, montre que si on s'élève à l'idée du plan divin qui a présidé à la création, eh bien, on conclut nécessairement que le monde est le meilleur des mondes possibles. Le monde est le meilleur des mondes possibles. Évidemment, là encore, je ne peux pas développer trop. C'est-à-dire que si vous considérez seulement le monde du point de vue fini, du point de vue limité de votre intelligence, oui, effectivement, le mal apparaît incompréhensible. Oui, le mal apparaît injustifiable. Mais si, au contraire, vous vous placez du point de vue de la totalité du monde, c'est-à-dire dont la sagesse divine est l'artisane, si vous vous placez du point de vue de la totalité, eh bien, le mal trouve sa justification. Il entre dans la composition du monde, en quelque sorte. Il a sa place. Donc, il trouve une justification dans la mesure où il s'intègre dans le plan divin et où il permet, d'une manière ou d'une autre, de réaliser le meilleur des mondes possibles. C'est-à-dire que dans un monde, c'est un tout, il faut le composer. Il faut faire entrer en composition des choses qui peuvent effectivement être en tension. Ben, je simplifie. Voyez, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir du mal. Mais le meilleur des mondes possibles, c'est pas un monde parfait. C'est pas un monde d'où le mal est absent. Le mal existe. Il ne s'agit pas de le nier. Mais il n'a jamais qu'une existence relative dans la mesure où il est le moyen d'un bien supérieur. Et donc, vous voyez, pour comprendre d'ailleurs la thèse de l'optimisme, il faut se rappeler le sens mathématique du mot, optimum. Hein, la réalisation d'un optimum, c'est-à-dire que consiste à réaliser un maximum à partir d'un minimum. Vous voyez, c'est ça, hein, l'optimisme, un optimum. Eh bien, Dieu est sage au sens où il a réalisé un optimum. Alors, vous voyez, c'est une doctrine, l'optimisme, qui présuppose nécessairement un théisme, évidemment, puisque vous aurez compris que cette doctrine présuppose l'idée d'un Dieu bon qui crée le meilleur des mondes possibles. Donc, c'est très simplifié ce que je vous ai dit, mais vous voyez, c'est pour vous donner l'idée, au fond, de l'histoire de la philosophie qui a précédé Schopenhauer. Et c'est cela qu'il ne veut pas. Parce que quoi qu'il en soit, si vous envisagez comme Spinoza que tout ce qui existe existe nécessairement, à ce moment-là, donc, on nie l'existence du mal, purement et simplement, ou si on envisage, au contraire, comme Leibniz, que, au fond, le monde est harmonieux, hein, eh bien, on ne nie pas l'existence du mal, on lui accorde seulement une existence relative. Mais dans les deux cas, que ce soit le spinozisme ou l'optimisme, on assiste, dans ces doctrines, à un véritable refoulement de la question du mal, et c'est pour cette raison que Schopenhauer les écarte. Une véritable philosophie, selon lui, doit se confronter à la radicalité de cette question. Et c'est à la capacité d'une philosophie à se confronter à la question du mal que l'on reconnaît justement qu'elle est une philosophie authentique. Donc, vous voyez, c'est le critère qui permet de dire voilà ce que c'est qu'une philosophie. Alors, on dit bien sûr que la philosophie de Schopenhauer est un pessimisme. Évidemment, mais il faut le comprendre par opposition à ce que je vous ai dit. C'est un pessimisme. Alors, ce n'est pas parce que Schopenhauer voit la vie en noir, hein, ce n'est pas ça le problème, hein. Ce n'est pas une question de psychologie. C'est un pessimisme au sens où elle prétend se confronter à la question du mal, au sens où elle considère que, au fond, la souffrance est au cœur de la vie humaine. C'est ça, l'idée, hein, principale. Alors, quelle sera la méthode ? Quelle méthode devra suivre la philosophie pour résoudre l'énigme du monde, l'énigme de la présence du mal, sans céder à la moindre illusion optimiste? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Ouais, dans les temps, hein. Bon, je ne vais pas aborder la dernière partie qui est sur le plan, hein. Sinon, mais c'est pas grave. En un sens, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, je fais vos questions. Il y a forcément des points. Donc, vous voyez, le théisme, il peut être de deux sortes. Il peut être religieux, mais il peut être aussi philosophique. Ceci étant dit, pour Schopenhauer, le théisme philosophique montre qu'on a affaire à une philosophie subordonnée à la religion. Hein, en fait. Ça ne paraît pas trop compliqué. Non. faut y aller doucement, progressivement, et je pense qu'il faut entrer dans les textes.
Question, vous avez placé l'allégorie du côté des religions, et pourtant de nombreux philosophes l'ont utilisé, notamment Platon.
Alors, oui, mais ça. Alors, là, bon, faites bien de me le dire. L'allégorie chez Platon a une vertu pédagogique. Elle est appréhendée comme une allégorie. Tandis que les religions, qui ont une nature allégorique, ne peuvent pas la reconnaître. Elles vivent l'allégorie comme une vérité. Toute la différence. Chez Platon, l'allégorie de la caverne, c'est un artifice pédagogique, c'est une image pour essayer de comprendre ce qu'est la condition humaine. Vous voyez, les hommes sont comme des prisonniers attachés au fond d'une caverne, hein, qui ne voient devant eux que les ombres qui défilent sur la paroi, hein, manipulés par des prestidigitateurs qui sont derrière, et évidemment, ils prennent ces ombres pour la réalité. Donc, la véritable connaissance consiste à sortir de la caverne. Et puis, ce qui est le fondement de la connaissance, c'est le soleil qui dispense la lumière. Bon, oui, bon, ça c'est une allégorie. Mais c'est une allégorie qui a une fonction pédagogique. C'est pas la même chose, vous voyez ? Parce que là, donc, au fond, celui qui lit l'allégorie, d'ailleurs, Platon vous fournit un code. Hein. Bon, voilà comment il va falloir interpréter, vous voyez ? Il vous donne les moyens de décoder, en quelque sorte, l'allégorie. Là, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez ? Donc, quand vous êtes dans l'allégorie, quand vous êtes dans la religion, vous êtes vraiment... Vous vivez ce que elle dit comme une vérité absolue. Et alors c'est là que, évidemment, la thèse de Schopenhauer place la religion du côté plutôt de l'illusion, hein, on est d'accord. Oui ?
Il y a une part de vérité dans la religion.
Oui. Oui, c'est-à-dire que les mystères, c'est une allégorie au sens où ils figurent une vérité. Donc ils l'expriment de manière médiate. Sauf que ça, c'est le philosophe qui le montre et qui le dit. C'est-à-dire, en fond, il faut une vraie philosophie pour pouvoir montrer. Pour pouvoir discerner le sens de l'allégorie exprimée par une religion. Vous voyez ? C'est pas la religion elle-même qui va avoir ce recul. Vous voyez ? Donc il faudrait une philosophie des religions, c'est la philosophie de Schopenhauer, qui va permettre, au fond, de déceler le contenu de vérité exprimé par l'image. Mais celui qui est dans l'image, lui, ne vit pas ça comme une image, comme une allégorie. C'est la vérité. Vous voyez la différence ? Oui ?
Moi, j'ai une question aussi, s'il vous plaît. Je n'ai pas très bien compris la différence entre le déterminisme de Spinoza et la volonté de Schopenhauer.
Ah ! Là, vous avez une bonne question.
On pourrait penser que c'est la nécessité qui a fait de l'homme un animal métaphysique.
Alors, là, c'est une bonne question. C'est vrai que, sur ce point, Schopenhauer rejoint Spinoza. Il n'y a pas de libre-arbitre non plus. D'ailleurs, il a écrit un livre où il montre qu'il cite Spinoza, il est d'accord avec lui sur cette question. Donc, effectivement, d'une certaine façon, ce n'est pas là-dessus qu'il va s'écarter de Spinoza, si vous voulez. Hein ? Cependant, pour Spinoza, il y a une petite différence, c'est qu'évidemment, il considère que le libre-arbitre est une illusion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liberté. Seulement, il faut la concevoir autrement. C'est-à-dire que la liberté, elle ne consiste pas à décider comme ça souverainement de mes actes, elle consiste finalement à réaliser ma propre nature, mon propre désir, c'est-à-dire ma force d'exister en quelque sorte. Et plus j'agis en fonction de ma propre force d'exister, et plus je suis libre. Et plus au contraire je subis les causes extérieures, sans d'ailleurs m'en rendre compte, et moins je suis libre. Je crois agir librement, mais en fait, je suis déterminé. Vous voyez ? Là, donc, il y a pour Spinoza l'idée qu'on peut se libérer, vous voyez, de la servitude, de l'impuissance. On peut devenir de plus en plus libre. Bon, et là, pour Schopenhauer, Non, ce n'est pas cette voie-là qui va suivre. Hein. Bon, c'est une philosophie déconcertante, hein, celle de Schopenhauer. Donc j'ai choisi cet auteur, c'est pas mon univers hein, intellectuel, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il ouvre des tas de choses différentes que celles qu'on a vues jusqu'à présent. Et il ne sera pas sans provoquer parfois quelques malaises, hein, c'est vrai, mais il ouvre des perspectives originales qu'on n'avait jamais vues avant, par exemple celui qui va ouvrir l'idée d'inconscient, hein, tout de même, par exemple. Hein. Bon, mais ce qu'il dit sur l'art aussi est très important. Hein. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison, d'une certaine manière, là, sur ce plan-là, on est d'accord. Mais disons que mais ça, je ne peux pas le dire maintenant, je ne peux pas l'expliquer. Pour Schopenhauer, au fond, qu'est-ce qui permettra d'échapper à la souffrance qui constitue finalement notre volonté, enfin, cette espèce de tension permanente que nous subissons? C'est certaines expériences particulières, mais je ne peux pas les expliquer, c'est-à-dire l'art, l'expérience esthétique, la morale, étrangement, une morale de la pitié, hein, bon... Alors évidemment, tout ça, c'est dit de façon grossière, hein, je ne peux pas l'expliquer. Et puis aussi, bon, d'une certaine façon, oui, il penche vers une sorte de sagesse bouddhiste, si on peut dire, hein, qui consiste, au fond, à s'abstraire de la volonté. Hein, bon. Mais d'un bouddhisme qui n'est peut-être pas parfaitement bien compris, d'ailleurs. Hein, mais ça, je n'irai pas plus loin. Donc ça, ce sont des choses qu'on verra après, si vous voulez. Hein. Pour l'instant... Ce qui nous reste à faire, si vous voulez, il y a deux gros morceaux à faire avant d'en regarder nos textes hein, particuliers. Un, il faut bien comprendre, bien expliquer comment Schopenhauer envisage la connaissance, le problème de la connaissance. Pourquoi, par exemple, les sciences ne peuvent pas connaître intimement la réalité? Ça, c'est une chose à expliquer. Pourquoi seule la métaphysique est à même de le faire? Et il ne s'agira pas d'une métaphysique qui procède par le raisonnement, comme était la métaphysique traditionnelle. C'est une métaphysique qui, alors là, c'est très original, s'enracinera dans l'expérience intime que nous avons de notre corps. Ça, c'est très, très, très original. Et, bon, mais évidemment, ça ne peut pas vous parler tout de suite, ça. Quelque chose qu'on verra après. Donc, il y aura d'abord à s'interroger sur le monde comme représentation, et puis ensuite, sur le monde comme volonté. La volonté étant cette force aveugle qui est présente en toutes les réalités, et y compris en l'homme, et qui pousse justement à vouloir, à désirer, à avoir des besoins, etc. Vous voyez ? Question. Ou c'est quelque chose qui paraît discutable ou pas bien compris, n'hésitez pas.
Juste par rapport à la bonté de Dieu, comme vous avez parlé, en fait, je pense qu'on peut innocenter Dieu parce que le mal, il vient pas de lui, mais de nous les hommes.
Ah! Voilà, ça, je l'attendais. C'est une bonne question. Bonne question, très intéressante. Eh bien, Schopenhauer va refuser cette voie. Effectivement, il y a l'explication traditionnelle, consiste à dire que le mal ne vient pas de Dieu. Si Dieu est bon, la création est bonne. Mais il fit irruption par l'homme. D'ailleurs, de façon énigmatique. Il faut quelque chose comme un serpent pour le tenter, hein, parce que... alors, c'est lui qui succombe au péché, c'est lui qui pêche, c'est lui qui désobéit à Dieu. Vous voyez, mais il faut... Alors, Schopenhauer refuse cette explication, qu'il estime être une explication psychologique, dans la mesure où elle innocente Dieu, justement. Où elle revient finalement à... C'est une thèse optimiste, au bout du compte. C'est une thèse optimiste, hein, puisque Dieu est bon, le mal vient de l'homme, et il va pouvoir se racheter, hein, etc. Et ça, non. Et il ferme cette voie aussi. Vous avez raison, très bonne remarque, ça complète mon propos. Ben c'est comment Schopenhauer, c'est un philosophe qui, je dirais, dont la philosophie est une philosophie désillusionnante, systématiquement. Il refuse toute, je dirais, toute explication, justification qui nous permettrait de rendre compte du mal. À peu de frais. Oui. Il faut vraiment... le mal est quelque chose d'incompréhensible. Et sa philosophie cherchera à comprendre quelle est sa source. Mais comprendre quelle est sa source, c'est pas le justifier. C'est comprendre qu'il émane d'une force aveugle, hein, qui se manifeste en nous, qui se manifeste dans le monde. Hein. C'est vraiment aborder la question du monde pour justement expliquer l'origine du mal.
Je suppose que Cioran a dû, lire énormément.
Ah bah c'est un disciple.
Il va encore plus loin.
Ah oui. Alors, est-ce que le pessimisme de Schopenhauer est un pessimisme? Parce que bon, on dit, ah, c'est désespérant, je vais me flinguer. Je ne veux pas lire Schopenhauer. Hein. Bon, non, Schopenhauer est hostile à toute... je dirais, au suicide. Hein, ferme. Non. Oui, le monde est désespérant. Oui. Mais il y a des issues, il y a des solutions tout de même. C'est pas un pessimisme résigné. Il y a l'art. Voilà. Et ça, c'est intéressant tout de même ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'il va considérablement inspirer Nietzsche hein, au départ. Moi, je trouve que au bout du compte, c'est vrai que ce philosophe Nietzsche, tout le monde en sens est célèbre. Il faudrait vraiment commencer par le lire à partir de Schopenhauer.
Il l'a lu en une soirée, je crois.
Ah, le bon. En une soirée, ça me paraît. Ah oui, il a été complètement enthousiasmé. Il était philologue, hein, Nietzsche. Il était pas. C'est un professeur de langues anciennes, si on peut dire. Hein. Bon. Et il est devenu philosophe grâce à Schopenhauer. Évidemment.
Mais quand Schopenhauer apprend l'art comme une solution, comme un moyen...
Comme un remède. Mais un remède momentané.
Est-ce qu'on ne retrouve pas la même notion de consolation que l'on peut trouver dans la religion?
D'une certaine façon, oui. Mais regardez bien, quand il parle des religions pour le peuple, quel est le mot qu'il emploie? Et c'est un mot qu'il emploie de façon positive. Consolation. Consolation. Donc, il y a les formes de consolation supérieures, si on peut dire.
Voilà, c'est ça.
Si on peut dire. Alors, qui vont consister dans l'art, dans la philosophie. Et il ne distingue pas... Enfin bon, il y a des différences à produire, mais la philosophie et l'art... L'art, c'est finalement la philosophie suprême. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Hein, bon. Et parmi les arts, la musique est au summum. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, évidemment, c'est à partir de la conception qui se fait de la vie que Nietzsche s'éloignera de Schopenhauer. Mais d'une certaine façon, il faut pour que Nietzsche soit possible qu'il ait lu vraiment Schopenhauer. Et alors, ce qui me frappe, parce que bon, je ne connaissais pas spécialement Schopenhauer, je connaissais un peu comme ça, hein, c'est de voir combien d'écrivains, mais vraiment, à la fin du 19e siècle, sont subjugués par Schopenhauer. Enfin, c'est Maupassant, Flaubert, tous, mais Proust, enfin, les Russes, Tolstoï, enfin, c'est incroyable. Les Anglais, tous. Il a un succès considérable, c'est le philosophe le plus lu. Alors après, bon, 20e siècle, moins. Oui, mais bon, on revient un peu à lui, même un petit peu. Il est plus considéré. C'est-à-dire que sa philosophie était concertante. Hein, ça aussi. Hein. Et c'est vrai que d'une certaine façon, il y a des lectures de Schopenhauer qui sont tout de même un peu caricaturales aussi. Hein. Il faut dire aussi, reconnaître que le personnage facilite pas les choses. C'est-à-dire que lui-même donne des bâtons pour se faire battre. Mais enfin, il est un peu provocateur. Dire les choses, quoi. Hein, son essai sur les femmes. Mais il le pense en plus. Hein, c'est pas... Ah non, c'est. Bon, on dit Schopenhauer, il faut assumer. Hein. Maintenant, et ce qui me plaît beaucoup, c'est que. Bon, je trouve que c'est assez clair, dans l'ensemble, évidemment. Il y a des passages qui ne vous paraîtront pas clairs parce qu'il fait référence à des choses que vous ne connaissez pas. Il parle, je ne sais pas, de l'optimisme ou du spinozisme, c'est sûr, si vous n'avez pas. Bon, c'est sûr, ça va. Donc, ça, on est d'accord. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez clair. Et, bon, le passage un peu plus difficile. Mais surtout, il y a parfois de l'humour. Il y a des passages où il est assez, je sais pas, il y a une sorte d'autodérision. Je vous ai envoyé ce soir par Internet la fin de la préface, la première édition. Vous verrez, il s'adresse au lecteur d'une manière qui est assez drôle, quoi. En gros, si mon livre vous déplaît, ben vous pouvez toujours le mettre dans un rayonnage, hein, ça fait bien. voilà, non mais il y a ça chez lui. Hein. C'est un drôle de personnage. Alors, lui qui se moque si méchamment des philosophes universitaires, pourrait lui rétorquer. Que les philosophes universitaires, ils étaient bien obligés de gagner leur vie, tandis que Schopenhauer, lui, il héritait de la fortune de son père. On est d'accord. On est d'accord. Enfin, il a consacré toute sa vie à ça. Et d'autant plus méritoirement qu'au fond, pendant 30 ans, personne ne s'intéressait à lui. Il était complètement ignoré. Une, deux, trois petites questions. Oui ?
Est-ce que le mal, il est dans la nature ou il est dans la nature humaine ?
Alors, bonne question. Il est dans l'univers, il est dans l'être. Et là, évidemment, je ne vais pas expliquer. C'est le voir. C'est cette force aveugle, cosmique, qui est présente en tout être, y compris en l'homme. Hein ? Qui est à l'origine, au fond, du mal, de la souffrance. Hein, Donc, la nature, quand je dis la nature humaine, là, je raisonnais un petit peu comme si je ne savais pas, comme si je ne connaissais pas encore assez Schopenhauer. Parce que, si vous voulez, je fais une lecture, il faut qu'elle soit progressive. Je ne peux pas présupposer des choses comme ça, ce ne serait pas intéressant. Je crois qu'il faut, il faut admettre, quand on lit un texte, de ne pas tout de suite toujours bien comprendre tout. Hein. Il y a des passages, on y reviendra. Ça, il y a des choses qui vont s'éclaircir au fur et à mesure. C'est comme ça, hein, je crois, qu'il faut lire.
En fait, le mal est inhérent à notre liberté. Le choix que nous avons entre le bien, le mal...
Non, il n'est pas ça, Schopenhauer. Non. Parce que là, vous revenez à l'idée d'un libre-arbitre. C'est-à-dire que vous considérez que la liberté de l'homme consiste à choisir entre le bien ou le mal. Ce n'est pas le propos de Schopenhauer. Non, le mal, limite, il est, je dirais qu'il est involontaire d'une certaine façon. Il a pour source, il a pour origine une force aveugle qui nous pousse à désirer en permanence, qui nous pousse à avoir des besoins en permanence, qui ne jamais, voilà, qui nous fait vivre dans une tension à notre existence, et puis qui nous pousse aussi à être injuste avec les autres, etc.
Il y a certainement un rapport à faire. Enfin, il y a une différence en même temps entre le conatus de Spinoza et puis cette ce vouloir vivre.
Oui, en un sens, oui. Oui, tout à fait. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le conatus de Spinoza, c'est, au fond, c'est cette force vitale, cette puissance vitale qui est inhérente à chaque être, pas seulement à l'homme, hein, qui est en tout être, en tout individu, et par laquelle il affirme son existence, et par laquelle il produit ses actions. Hein, c'est ça. Hein. Et voilà, effectivement, hein, tout à fait. Et ce conatus s'exprime de manière limitée, au fond, je dirais, la nécessité absolue.
La nécessité absolue
de Dieu.
On peut dire un peu sur le même registre.
Oui, alors, oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a une sorte d'énergie. Ouais. Hein, une énergie qui. Une explication, effectivement, énergétique. De l'action, des choses,
de...
et une dimension cosmique, absolument, absolument. Sauf que, vous verrez, chez Schopenhauer, il y a des choses très originales. Vous verrez, ce qu'il dit de la mort, c'est assez original. Ce qu'il dit de l'amour, c'est assez désillusionnant, hein, mais il y a la force. Hein. S'il y a des romantiques, ils font déçus, mais en même temps, c'est intéressant. Excusez-moi.
Il y a un rapport avec l'élan vital de Bergson,
oui. Quelque part, oui. Oui, il y a toujours cette espèce d'idée d'une énergie. Et effectivement, l'élan vital chez Bergson, qui a lu Schopenhauer, et qui d'ailleurs le critique dans certains passages, l'élan vital, c'est vrai que c'est une sorte de force cosmique aussi, hein, qui se répand, et qui traverse tous les êtres. Et c'est par cet élan vital qui est en nous que nous créons. Sauf que, c'est vrai, mais ça ne va pas dans le même sens. C'est une autre orientation. Pour Bergson, pour Spinoza, c'est quelque chose d'expansif et de joyeux, si on peut dire. Hein.
Vers une libération.
Vers une libération, absolument. Pour Schopenhauer, non. Non, 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 la vie est affreuse. Non, mais... Non, c'est vrai. C'est... Mais bon, si je dis comme ça, vous allez tout de suite dire, on ne va pas revenir. Hein. Alors... c'est intelligent, c'est intéressant. Et moi, je lis Schopenhauer, je trouve ça assez agréable à lire, même si je n'en partage pas du tout la philosophie. Mais en même temps, ça me parle. C'est stimulant. Et c'est un excellent auteur pour aussi connaître et relire un grand philosophe dont il est l'héritier, qui s'appelle Kant, qui est quand même un grand philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, hein, et dont il reprend, hein, il considère que c'est... Au fond, quelque part, c'est ça, un maître, hein, pour lui.
Pourtant, c'est un philosophe universitaire.
Alors, là, j'ai pas lu. Oui, mais vous allez là. Oui. Non, oui et non. Il était privat docent. Enfin, bon, il était... c'est un peu spécial. Mais il est entre les deux. Bon, vous verrez le passage qu'il lui consacre. J'ai pas lu, hein, ça, parce que là, bon... ça nous... Hein, bon. Mais vous verrez, il y a dans le texte que je vous ai donné, photocopié, vous avez un... Ah non, j'ai dû l'enlever, pour faire court. J'ai dû l'enlever. Mais dans le chapitre 17, vous avez deux paragraphes consacrés à Kant qui se trouvent trahis par l'université, etc. Voilà. Et d'une certaine façon, il y a aussi une ouverture de Schopenhauer aux animaux. Hein, je serais presque prêt à dire que son caniche a plus d'importance que sa concierge. Non, mais... c'est fait... Non, mais c'est... Voilà, non, il y a... Bon, c'est un peu grossier, ce que je dis. Sur le plan politique, rien, hein, ça c'est indifférence totale. On peut même dire qu'il est assez réactionnaire. Bon, c'est clair que pour lui, une philosophie de l'histoire qui La supposée idée d'une émancipation de l'humanité, bah, c'est comme une théodicée. C'est une thèse optimiste. Hein ? On souffre. C'est la lutte des classes. Mais on souffre. Mais on va pouvoir, par la révolution, réaliser un monde meilleur. Voilà, mais c'est ça, c'est du Hegel, c'est du Leibniz. Voilà, et ça, c'est pour lui, c'est complètement étranger. Je ne supporte pas, parce que c'est une conception théologique du monde.
Voilà, c'est ça.
Une conception théologique du monde. Et comme la plupart des philosophes allemands de cette époque-là, Schelling, Fichte, c'est un grand philosophe aussi, qui domine à l'université allemande, hein. Et il reproche à ces philosophes d'avoir trahi Kant. Ben, ils prétendent continuer hein, cette philosophie, mais en fait, ils le trahissent. Et prétend, lui, Schopenhauer, être fidèle. Enfin, fidèle. Enfin bon, vous verrez que, d'une certaine façon, il retient sa fameuse distinction entre la chose en soi et le phénomène. Je ne peux pas pouvoir expliquer. Voilà, c'est ça. Par contre, pour Kant, tu ne peux pas y avoir de métaphysique comme connaissance. La métaphysique ne peut pas être une connaissance. Il peut pas y avoir de connaissance métaphysique. Il n'y a de connaissance que scientifique, que phénoménale. La métaphysique, elle a un rôle pratique. Bon. Alors, évidemment, là, je ne peux pas trop développer. Hein. Eh bien, pour Schopenhauer, non. La métaphysique peut. Elle doit elle-même, elle est une connaissance, elle est même la connaissance suprême. Alors, on dirait pas phénomène, parce que phénomène, le phénomène au sens où l'entend Kant et Schopenhauer, c'est la chose telle qu'elle apparaît dans l'expérience. Donc, le phénomène est physique. Il relève de la physique.
Oui, mais je parle des phénomènes en physique, par exemple, l'énergie, la formation.
L'énergie ?
Variation.
Alors, disons que ce qui relève de la métaphysique, c'est pas ce que nous observons, ça, effectivement. Les sciences, elles montrent bien comment les phénomènes s'enchaînent selon des rapports de cause à effet. Par contre, elle est... Enfin, là, je vais forcément simplifier, mais elle présuppose nécessairement à la source des phénomènes des forces naturelles qui sont invisibles, qui sont inobservables. La force de gravitation, ça ne s'observe pas. C'est un principe qui est supposé par les savants.
Qui déduit, en fait.
Hein, on mesure les effets de du principe de gravitation, mais on ne peut rien dire de ce qu'il est en lui-même. Eh bien, justement, là, c'est là que Schopenhauer se démarque de la connaissance scientifique, montre que la connaissance scientifique, finalement, elle reste à la surface des choses, et lui prétend que la métaphysique peut connaître dans leur intimité les forces qui sont à l'origine des phénomènes. Vous voyez, il y a une connaissance... ça, c'est... Sur ce plan-là, il ne suit pas Kant. Hein, il tue le père, hein, si on peut dire. Vous voyez ? Voilà. Alors, on va peut-être arrêter là. Il est l'ennemi. Donc, je vous rappelle, samedi 21, il y a petite conférence à la bibliothèque. Et il y a des prospectus et des flyers si vous voulez bien.